Bonjour à tous et bienvenue dans ce 11e épisode du podcast Les Projets du Web. Je suis Nicolas, votre hôte de ce soir. Heureux de, j'allais dire, de vous entendre. Heureux pour vous de m'entendre peut-être. Qui sait. Pour cette émission qui commence décidément sur les chapeaux de roue avec une intro pas du tout maîtrisée, j'accueille un petit nouveau puisque Mathieu n'a pas pu être là ce soir. En la personne de Morgane, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Bienvenue à toi, c'est ta, si je dis pas de bêtises, première expérience en termes de podcast.
C'est ça, c'est le baptême du feu.
Pas trop stressé, ça va, non?
Non, ça va aller.
La seule qui mange personne. Gentil, nos auditeurs sont gentils, je suis un gentil, tout va très bien se passer. Donc voilà, tu avais répondu en fait à la petite annonce que j'avais faite où j'indiquais qu'on cherchait des gens pour un peu nous aider, et donc... Voilà, on va voir si cette émission se passe bien. Il n'y a pas de raison. Hein. Je pense que tu es motivé, tu es intéressé par le sujet. Donc,
Ah ben ouais, ça c'est sûr. Depuis le temps que j'écoute, donc j'avais vraiment envie de participer un petit peu. C'est l'occasion.
Eh ben voilà, bah écoute, sans plus de palabres et de discussions, je vais directement te lancer dans le grand bain et on va entamer avec l'émission, si tu veux bien. Moi, tu aies quelque chose à dire à nos auditeurs avant de commencer, mais...
Non, par contre, je viens juste de voir que je ne me suis pas présenté, donc moi, c'est Morgane, pour tout le monde. Voilà, comme ça, un nom sur cette voix, ce sera plus simple.
Ne t'inquiète pas, je reviendrai vers toi à la fin de l'émission, je te présenterai plus en détail, mais les gens vont d'abord t'écouter et te voir à l'œuvre. Bon, allez. Entrons directement, allons-y, c'est parti pour le vif du sujet, avec les news, hein, on va entamer simplement. Avant toute chose, avant de commencer, j'avais une petite information rapide à donner, qui par la même occasion est une news, hein, mais bon. C'est le Stunfest, je ne sais pas si tu connais,
les gens entendent parler. De nom.
C'est donc un festival qui a lieu chaque année à Rennes, qui est un festival sur le jeu vidéo. Qui est d'ailleurs très plébiscité. J'ai toujours dit qu'il fallait que j'aille faire un tour et j'ai jamais eu l'occasion. Mes amis Rénois, Alex, notamment si tu m'écoutes, sauront de quoi je parle. Et donc, comme chaque année, bah, ils lancent un crowdfunding pour financer leur événement. Donc ça se passe sur Ulule. Comme d'habitude, bien évidemment, vous aurez le lien dans les commentaires de l'émission, enfin dans le billet de l'émission. Ils cherchent à avoir 10 000 euros, c'est la tape, hein. Chaque année c'est un peu le même. Et pour le moment, à l'heure où on vous parle, donc il reste 11 jours, nous sommes le 7 avril, et ils sont à 3 836 euros. Voilà, donc le Stunfest, si vous n'y avez jamais été et que vous êtes dans le coin, n'hésitez pas, foncez, c'est 3 jours vraiment que autour du jeu vidéo avec des experts. C'est pas un supermarché comme on voit dans la plupart des festivals, c'est vraiment... Vraiment un bon boulot d'amateur. On peut d'ailleurs retrouver pas mal de vidéos sur le web si vous voulez voir. Il y a des conférences vraiment très poussées sur le jeu vidéo. Il y a du jeu indépendant, il y a du sport, de l'arcade, des concerts, enfin, plein de choses. Voilà. Et petite précision, j'ai quand même oublié de le dire, c'est du 22 au 24 mai qu'aura lieu cet événement. Voilà, c'était la petite news en passant. J'avais promis de la faire, donc je l'ai faite. Et maintenant, ben, on entame avec le corps du sujet, avec les vraies news. Et ben, je commence, hein, décidément.
Vas-y, ouais.
Pour ta première fois, je ne te laisse pas la parole. Je commence avec DuckDuckGo, qui est très connu par les défenseurs de la liberté sur Internet. Donc, c'est un moteur de recherche, on va dire concurrent à Google, hein, même si pour le moment, malheureusement pour eux, il faut le dire vite, mais il commence à avoir de plus en plus grosse communauté. Donc DuckDuckGo, qui a toujours prôné le Do Not Track, le fait de ne pas être intrusif, de pas, a décidé de donner 125 000 dollars pour aider différents petits projets sur Internet. Donc c'est des projets essentiellement basés sur la défense de la vie privée sur Internet. Donc par exemple, il y a la Freedom of Press Foundation, si je ne dis pas de bêtises sur le nom, oui c'est ça, qui est en train de développer SecureDrop. Donc c'est une plateforme qui est destinée à recevoir les infos des lanceurs d'alerte. Ils ont reçu 25 000 dollars. Ils ont donné un Privacy Badger, qui est une extension pour navigateur qui bloque tout ce qui est publicité ciblée, pistage, dispositifs du genre les boutons j'aime de Facebook, enfin ce genre de saloperie, hein, on peut le dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont donné encore? Un système un outil de chiffrement des conversations et des fichiers sous OSX, une plateforme de courrier électronique anonyme, enfin, voilà.
Plein de
Donc,
bonnes choses, quoi.
c'est ça, voilà, exactement, plein de bonnes choses à mettre en comparaison des fonds d'investissement Google qui a tendance plutôt à donner à des choses qui peuvent l'arranger ou qui peuvent lui rapporter d'une manière ou d'une autre de l'argent. Ici, on est vraiment sur une optique voilà, de neutralité du web, de vie privée. Donc c'est une initiative, je trouve, à souligner. Je sais pas si tu es utilisateur toi-même DuckDuckGo, si tu les connais
J'ai
plus que ça.
essayé, mais au quotidien, malheureusement, Google revient trop souvent.
C'est la difficulté. Quand on essaie de se défaire de Google, c'est là qu'on se rend compte que
Il y a quand
oui,
même.
Google est effectivement ce qu'il est, mais il y a quand même un sacré niveau de service derrière, quoi. C'est très
Bah,
difficile de les concurrencer.
ils ont les moyens. Malheureusement, ils ont les moyens.
L'argent fait
Ouais.
beaucoup, effectivement, je te confirme. Donc voilà, une initiative à saluer, je trouvais. Bon, enchaînons avec. Ben c'est à toi,
C'est
ton
à
baptême
moi.
du feu, hein, tu vas nous parler de
C'est ça.
Cozy.
Cozy, un nouveau, enfin, un ensemble de produits qui est en train d'aider à développer Tristan Nitot, qui a travaillé pendant 13 ans, si je raconte pas de bêtises, à la fondation Mozilla, donc à promouvoir Firefox, Thunderbird, etc., qui a fait un énorme travail justement pour diffuser cet outil qui maintenant est devenu quand même un des grands, en tout cas pour Firefox, dans notre environnement quotidien. Donc il a quand même fait ses preuves, ce garçon. Et donc il va rejoindre une application c'est un ensemble d'applications qui est là pour remplacer tout ce qui peut être, ben, tout ce qui est Google, Facebook, etc. J'ai plus sous les yeux, j'essaie de le retrouver depuis tout à l'heure.
Le nom de...
Non, ça c'est Cozy, la liste d'applications, mais les différentes options qu'il y a dedans. En fait, le gros travail qu'il va y avoir à faire, c'est de le rendre très facile à installer, à utiliser, très user-friendly, en fait, parce que pour l'instant, c'est quand même encore quelque chose qui est pour les développeurs. J'arrive plus à retrouver la liste. Bon, de toute façon, il y aura le lien dans les billets du podcast. J'arrive pas à la retrouver. Bon, je suis désolé. Un peu mal organisé. Bon, je vais peut-être passer à la suite. Voilà, je suis allé directement sur le site Cozy, donc cozy.io.
C'est le plus simple.
Donc c'est voilà, exactement. C'est un cloud personnel où on peut héberger plein d'applications. Donc, ce qu'il nous dit, c'est qu'on peut déposer nos fichiers, on peut renseigner notre agenda, les contacts, et il y a tout un tas d'applications qui fonctionnent avant. Et l'idée, c'est de faire vraiment un écosystème à la Google, c'est-à-dire avoir quelque chose qu'on installe chez nous, donc complètement décentralisé où tout est chez nous, et en même temps que ce soit très simple à utiliser, très simple à installer. Et donc, c'est quand même un projet qui, dans le futur, pourrait être très très intéressant, parce que comme on vient de le dire, Google peut être très très pratique, c'est quand même qu'une entreprise privée, et la diversité fait jamais de mal, quoi.
Mais c'est là
Donc,
que c'est difficile pour eux quand même, parce que c'est... Enfin, je connais le bonhomme de réputation et je pense qu'il peut y arriver, mais c'est clair que pour ce qu'on appelle le Madame Michu, installer ce genre de service en local chez elle, paramétrer un serveur, y donner l'accès, etc., c'est quand même...
Ouais,
Vraiment, c'est
mais
retors,
alors
quoi.
ce sera compliqué, mais si jamais la solution est simple en elle-même, quelqu'un d'autre pourra le faire pour elle assez simplement. Typiquement, moi j'ai déjà installé pour des amis plus âgés des Firefox très rapidement, la prise en main est une fois que c'est installé, ben voilà, il n'y a plus rien à faire, quoi.
Ah oui, non, je
Donc
dis pas qu'ils sont en mail d'y arriver, ils y sont arrivés pour le navigateur, mais dans l'état
non,
actuel des
c'est
choses, Google, c'est quelque chose à remplir, hop, on a son espace cloud, son mail, son système de documents en ligne, ses sacro photos, son tout ce qu'on veut, quoi, tout.
Ouais, non, c'est sûr, c'est pas gagné d'avance, mais il y a sûrement un travail à faire pour que ce soit utilisable facilement, quoi.
Faudrait qu'on fasse un jour un épisode sur tout ce qui est logiciel libre. Je pense que ça peut être
Ouf,
intéressant, mais
yeah.
il y a des choses qui se... Il y a beaucoup de choses qui se créent.
Oui, il y a beaucoup, beaucoup de choses. L'avantage d'Internet neutre, sans lancer de polémique.
Effectivement.
Donc, je vais te repasser la main pour
Mais voilà,
parler
donc
de
ici
Synops
c'était
Live.
juste pour repréciser, My Cozy Cloud, si vous voulez le nom complet de la solution, Cozy pour son petit nom, et on vous mettra bien entendu le lien dans les commentaires. Donc oui, effectivement, je vais envoyer sur Synops Live, qui est quand même une plateforme très très connue pour les gens amateurs de podcasts, hein. Je pense que tu devais connaître, à mon avis, hein.
Ah oui, consommateur, hein.
Je pense que au moins toutes les personnes qui ont écouté un petit peu de podcasts indépendants ont au moins, même sans savoir, passé ne fût-ce que quelques minutes écouter quelque chose sur Synops Live. C'est impossible autrement. Donc c'était une web radio, on va dire ça comme ça, une web radio qui diffusait beaucoup d'émissions en live. À la base, leurs émissions à eux, et puis petit à petit, ils ont commencé à se diversifier, ont eu beaucoup de partenaires. Il y a notamment toutes les émissions du groupe Radio JV et Radio Kawa, avec nos amis Inks et Alex le serveur que nous avons reçus dans une précédente émission, coup de pub hein, en passant, parce qu'on les avait interviewés. Il y a nos amis de chez Queen Novi, hein, Petit Coucou à Barberousse, il y a le One Eye Club, enfin il y a pas mal de choses, le duel, pas mal de bonnes émissions. Ça faisait maintenant 8 ans que Synops Live a été lancé, et ils ont décidé en fait d'arrêter, purement et simplement. Donc à partir du mois de juin, il n'y aura plus de Synops Live, c'est fini. Paix à son âme.
Mais les podcasts hébergés vont se dispatcher ou tout s'arrête?
Alors il n'y a pas. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est juste hébergé au niveau du live, en fait. C'était le système
Oui.
de live qui était utilisé par des
C'est ça.
podcasts, qui eux-mêmes avaient leur propre site, leur propre serveur était disponible après en téléchargement de toute façon, donc ça, rien ne change. C'est juste au niveau du live. Maintenant, la technologie que Synops Live utilisait, qui a fait quand même visiblement ses preuves et qui est assez reconnue, va être maintenue. Donc elle sera proposée aux différents podcasteurs qui pourront toujours à loisir l'utiliser. Ce sera simplement plus brandé Synops Live, ce sera plus sur l'antenne de Synops Live avec l'URL synopslive.com. Ce sera. Voilà, ils pourront l'utiliser pour leur propre live s'ils veulent le faire eux-mêmes sur leur site. Donc, si vous aviez des émissions que vous suiviez par ce biais-là, que vous aimiez bien via la marque Synops Live, ben, prenez une note simplement du nom de l'émission, allez sur leur site ou sur leur flux Twitter et vous serez certainement informé de leur futur. Je sais par exemple que Radio JV et Radio Kawa planchent sur leur système propre. Je crois que Queen Novi ont migré chez nos amis de Fresh Pods, dont on fait partie également. Donc voilà, chacun aura sa solution. Mais c'est quand même une
Ouais.
grande histoire, un grand de l'histoire du podcast francophone qui s'arrête. Parce que quand même, 8 ans, c'est quand même pas léger dans ce milieu. Hein. C'est quand même
Ah non, c'est sûr.
un précurseur. Donc voilà, paix à son âme, au revoir Synops Live, et merci, j'ai envie de dire. Donc je sais pas si tu as un petit mot pour eux, si tu
Ah
suivais.
bah c'est oui, je suivais le duel, Queen Novi, quelques autres occasionnellement, donc. En tout cas, le nom était jamais inconnu dans le milieu, quoi.
Non, ça c'est clair, je crois que Synops. Mais non, ça n'arrête pas toute la galaxie Synops qui est autour, hein, parce que Synops, ce n'est pas que
Oui,
ça. Hein. C'est juste Synops Live qui a décidé d'arrêter là. Je vous
oui,
mettrai dans le billet de l'émission d'ailleurs un lien vers le blog du créateur qui explique très bien, je trouve, il détaille vraiment beaucoup les raisons de ce choix. Donc voilà, je vous invite à aller prendre un petit peu de temps pour le lire. Voilà, mais je te repasse la parole alors pour
Ah, je vais
l'année
la reprendre
suivante.
alors. Je vais vous
Joli.
parler d'une installation qui s'appelle Birdly. C'est en gros un simulateur de vol,
Ça parle de
mais comme un
bière?
oiseau.
Ouais, ça parle pas de bière,
Comment?
dommage.
Non, malheureusement.
Ça me dit Beardly.
Ouais,
Il y a
j'ai
un
un anglais un
concept.
peu. Donc c'est un simulateur pour avoir l'impression de voler comme un oiseau. C'est trois personnes à temps partiel qui ont construit en fait l'appareil, puisque il y a effectivement dedans un Oculus Rift, bon, un casque pour l'immersion effectivement, et il y a une espèce de plateforme allongée où on a les deux bras qui sont accrochés comme à moitié écartés, qui tiennent deux plaques en fait, et avec ça on peut aller à droite, à gauche, lever, et c'est ce qui va comment dire, interagir avec la simulation qu'on est en train de vivre avec l'Oculus Rift. Et pour parfaire cette sensation, on a un ventilateur qui est placé juste en face de la tête, qui souffle plus ou moins fort selon la vitesse qu'on devrait ressentir dans la simulation. Et donc j'ai trouvé ça vraiment, enfin j'ai eu envie de l'essayer instantanément quoi. Donc je voulais le porter à votre intérêt. Je me rappelle plus qui a réalisé ça. Il me semble que c'était des gens. Bon, je sais plus. C'est un petit groupe de travail.
Bah,
Et
le
ils.
site que tu as mis dans le conducteur s'appelle somniacs.co.
Ouais, mais ça c'est leur site à eux et ils marchent plus en ce moment.
Si, moi je
Donc je
suis
me.
dessus.
Ah ouais?
C'est simplement que le lien que tu as mis est tronqué, il manque.
Ah d'accord.
Je te le mets dans le. Ben, voilà. Nos éditeurs connaissent un peu les dessous comme ça, mais. Voilà.
Hop.
Mais ça me rappelle des choses que j'ai essayées parce que
Effectivement.
j'ai eu l'occasion d'essayer le Oculus Rift dans un salon tech ici en Belgique. Et il y avait au salon en question une démo du même type, en fait, où tu faisais je confonds toujours, mais c'est du parapente.
Ouais.
Et donc, en gros, tu étais dans un simulateur pareil où on te mettait un petit harnais pour être un peu en l'air, tu tenais deux poignées, et tu avais, en même temps que l'Oculus sur ta tête, un ventilateur qui était en face. Et qui
Ouais.
s'orientait un peu selon les directions que tu prenais, etc. Il bougeait en même temps pour donner l'impression que le vent changeait, quoi.
Ouais, pareil.
Donc
Ah,
il y a
ça
pas
doit
mal de
être. Enfin,
projets
j'ai
de ce
jamais pu
genre.
essayer, mais j'ai vu l'installation effectivement de laquelle tu parles. Donc en fait, c'est une entreprise qui s'appelle Somniax. Donc c'est pas du tout ce que je croyais. J'ai dû me confondre avec notre news. Mais donc c'est Somniax qui a commencé à créer ce projet-là de simulation de vol en tant qu'oiseau, quoi.
Mais c'est assez impressionnant, franchement. Enfin, moi, j'ai pas essayé celle-là, évidemment, j'ai essayé le parapente, mais t'as quand même des sensations non négligeables, quoi.
Ouais.
Tu sais pertinemment que tu n'es pas dedans, hein. C'est pas non plus. Tu veux
De toute
pas.
façon, on revoit tous des vidéos de personnes qui l'ont essayé et qui se cassent la gueule, quoi.
Oui, c'est ça, voilà, tu vas pas. Ton cerveau, comme dans certains films, ne va pas mourir parce que tu meurs dans le jeu. Mais
Ouais.
t'as quand même des sensations qui sont là et où tu sursautes un peu, tu prends peur au moment où tu risques de t'écraser,
Ouais.
t'essayes de dire est-ce que je peux approcher du sol, est-ce que.
Ah, ça va être vraiment, vraiment, vraiment sympa. J'ai jamais encore pu essayer, mais c'est un de mes projets.
Non, ça l'est, franchement, je plus sois. Donc voilà, si vous voulez aller voir le site, c'est Somniacs, donc SMNIACS.co. Voilà. Bon, petite news suivante, enfin petite. C'est Deezer, nos amis du système de musique en ligne, un des principaux et j'ai envie de dire seul, même si c'est pas exactement le cas, mais des seuls gros en tout cas, concurrents de Spotify, qui a décidé ici de. Enfin, n'a pas décidé plutôt. Voudrait, comme le dit son directeur, tout exploser avec un forfait à 5 euros par mois. Donc. Ici, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a plusieurs systèmes de ce type-là qui sont lancés. On a notamment différents artistes. Il y a Jay-Z qui en a lancé un récemment. Il y a Apple qui risque d'arriver sur le créneau. Donc, évidemment, ça fait peur aux petites boîtes comme Deezer ou Spotify. Ce qui est logique parce que le jour où Apple va arriver, je pense que ça va faire mal. Et donc, le patron de Deezer a déclaré que. Je vais le lire texto, hein. Ils peuvent nous faire du mal en signant des exclusivités avec des majors, des labels ou des artistes, ou en arrivant avec un prix très agressif. À 10 euros par mois, on s'adresse aux fans de musique, mais à 5 euros par mois, on explose tout, c'est juste le prix. Donc voilà, ils semblent se positionner en fait pour essayer de contrer l'arrivée de mastodontes comme Apple sur un système extrêmement low cost, où le prix serait vraiment le facteur décisif qui se dirait selon le public. Et c'est vrai qu'il faut reconnaître que déjà 9 euros, si j'ai pas de bêtises, actuellement Spotify 9,99 euros, la formule
Il me
illimitée,
semble, oui.
c'est déjà quand même assez impressionnant comparativement à ce qu'on avait il y a quelques années. Hein. C'était même pas le prix d'un CD. Donc 5 euros par mois pour avoir toute la musique qu'on veut en illimité, c'est clair que là je suis plus que client personnellement. Donc voilà,
Ouais, bah oui, tu m'étonnes.
je sais pas si t'écoutes beaucoup de musique.
Oui, mais j'ai pas d'abonnement, on va dire.
Tu te sers du bon vieux
j'écoute
YouTube.
Thomas. Je me sers du bon vieux Groove
Oui, c'est même.
Shark, en fait. C'est le même principe.
Bah, honnêtement, pour 5 euros par mois, ça en devient tellement ridicule qu'on se dit
Ouais,
pourquoi pas être dans la
j'y ai déjà
légalité.
pensé. Hein. Non, mais c'est sûr. Après,
Voilà.
c'est le truc qui. C'est par phase, en fait. Il y a des semaines où je vais consommer énormément de musique, et après, pendant 3 semaines, 4 semaines, je vais rien écouter, donc c'est ça qui me fait douter, mais sinon, j'aurais sûrement déjà pris un abonnement, oui.
Ah oui,
Chez l'un ou chez l'autre.
c'est vrai que c'est ça qui est chiant en fait d'avoir un abonnement, mais en même temps, en principe de licence globale, dans un ancien podcast que j'animais, on avait eu un débat sur le sujet de la licence globale, où on se posait la question de savoir à partir de combien on serait prêt à payer pour avoir accès à tous les types de contenus. Et si des plateformes comme ça proposent des systèmes à 5 euros, qu'on est à moins de 10 euros chez Netflix pour de la vidéo, qu'on a du jeu vidéo avec du PlayStation Plus à dizaines d'euros également, enfin, bref. Au total, on est en dessous des 50 euros pour avoir accès à toute la culture, des bouquins illimités chez Amazon, des choses comme ça. Je pense que ça devient plus que raisonnable, franchement. C'est un prix que je serais
Oui,
prêt à mettre,
ça.
en tout cas. Et en plus,
C'est sûr.
pour être dans la légalité, ça change sur Internet.
Ouais,
Et 411 si vous nous écoutez. Bon, bref. news suivante, hein, je te repasse la
alors,
parole.
moi je vais parler d'un objet intelligent, mais qui ne sera pas porté ce coup-ci. Enfin, par rapport à ce qu'on raconte en général dans les podcasts tech,
Ça va être
c'est une
compliqué.
table. C'est une table de réunion, en fait. C'est plutôt dans le domaine professionnel. C'est un groupe de recherche du New York Times. Je savais même pas qu'ils avaient des groupes de recherche avant cette news, en fait. Et qui ont créé une table qui écoute les réunions et qui, à la sortie de la réunion, est censée être capable. Donc, faudra voir vraiment, parce que c'est quand même une sacrée promesse, qui est capable de faire un résumé de la réunion, c'est-à-dire qu'il est capable de reconnaître les moments, enfin déjà reconnaître la voix, la garder en format texte si j'ai bien compris, et ensuite ne garder que la partie intéressante de la réunion. Donc déjà là c'est un gros défi je trouve, c'est un beau projet. Et en plus de cela, pendant la réunion, n'importe qui peut, comment, il y a un capteur qui permet de taper pour dire ce morceau de la réunion m'intéresse moi. Et là, la table va récupérer les 30 secondes qui sont avant le fait qu'on ait tapé et va enregistrer les 30 secondes qui suivent et va le mettre dans un dossier pour que vous puissiez le récupérer à la sortie de la réunion. Donc ça permet de faire des sortes de post-it audio pour optimiser le temps de réunion qui, selon là où vous travaillez, etc., peuvent parfois s'éterniser pour pas grand-chose.
Oh oui.
Donc j'ai trouvé le projet vachement intéressant parce que c'est assez surprenant. Alors on voit beaucoup de choses qui se ressemblent. Là c'est assez innovant et surprenant tout simplement.
Non, effectivement, il y a déjà. J'ai déjà vu plusieurs systèmes de ce genre-là, notamment Microsoft avec sa. C'était ses surfaces.
La Surface, ouais, la première du nom en fait, avant que le produit Surface sorte.
Non, justement, enfin oui, il y a eu celle-là, effectivement, mais après, ils ont abandonné ça. Mais dans la dernière conférence, ils ont présenté une surface, je ne sais plus le nom, de 84 pouces, un grand écran 4K qui est en fait un tableau qui permet aussi d'organiser des réunions. Enfin, c'est pas aussi poussé, il n'enregistre pas, il ne fait pas. Mais tu peux faire de la visio, tu peux prendre des notes, tu peux. Je trouve toujours ces concepts intéressants. Moi qui ai fait beaucoup dans mon job ici, c'était beaucoup de réunions. Et c'est vrai que les réunions, c'est bien gentil, mais ça manque un peu d'action à mon goût. Mais c'est vrai que si on pouvait retenir comme ça quelques trucs principaux et avoir des facilités de prise de notes et d'organisation derrière, et retrouver ce qui a été dit de manière très simple, comme ça.
Et qu'il en ressorte quelque chose.
Oui.
Souvent, il faut, enfin, à moins d'avoir un scribe qui s'occupe de tout noter, c'est de la mémoire collective, quoi. Jamais très efficace.
Oui, on a dit que, mais on avait dit que, oui, mais toi t'avais répondu que, ah oui, non, mais j'avais dit ça parce que.
Ouais.
Effectivement, oui, non.
On s'y retrouve.
A raison, en effet.
Donc,
Non, c'est
un
sympa,
bon
et puis
domaine à explorer. Ouais.
la vidéo, encore une fois, elle sera dans les notes de l'émission, mais est assez impressionnante. Je ne savais pas non plus que le New York Times avait un
Oui.
laboratoire irradié. Ça m'a un peu étonné, mais voilà, ils font des choses assez intéressantes. Après, encore une fois, avoir aussi derrière, parce que bon, c'est que de la R&D, avoir comment ce sera appliqué, par qui, dans quel écosystème, il faut qu'il y ait une grosse boîte derrière pour que ça puisse prendre au niveau public, enfin professionnel pour le coup, mais voilà. auprès des sociétés en tout cas.
C'est déjà de la... déjà c'est recherché, c'est déjà un pas en avant.
C'est déjà un bon début, effectivement. Bon, dernière news, je vais vous parler série TV, puisque c'est nos amis de chez... Enfin, nos amis de chez Google. Pour le moment, d'après ce que j'ai lu dans l'article, c'est en discussion, on en parle, il y a des rumeurs, mais encore rien de certain. Mais je sais pas si tu as déjà entendu parler du jeu Ingress.
Oui, j'y ai même participé pendant une période.
C'était... Ah ben ouais. J'ai voilà. essayé d'y jouer, j'ai jamais accroché personnellement, mais je sais qu'il y a des gens qui sont très accros de ça.
En fait, j'étais assez intéressé, et du coup, ça, je commence parce que le principe du jeu, je le résume en deux mots. Il y a des points d'intérêt, donc c'est-à-dire des lieux intéressants dans des villes, etc. Et on va créer des sortes de portails virtuels qui vont permettre d'articuler le jeu autour de ça. Et il va falloir essayer de capturer le portail. Forcément, il y a deux camps, donc on monte de niveau, etc., etc. Je vous passe un petit peu les détails. Mais surtout, le gros intérêt, c'est que c'est très social, vu qu'on est obligé d'aller sur place pour pouvoir attaquer un portail. C'est pas quelque chose de virtuel. Du coup, les gens qui sont dans chaque camp sont amenés à se rencontrer entre les camps et puis dans le même camp. Donc moi, ça me plaisait bien. Je jouais occasionnellement, j'essayais de faire des points, et j'ai rencontré deux trois personnes qui sont dans ma région, qui sont vraiment à fond dedans, et c'était un peu trop intrusif comme façon de jouer, et ça m'a un peu dégoûté. Mais bon, à part ça, c'est un jeu que je trouve très bien quand même.
C'est un peu du, enfin pour ceux qui aiment bien ce genre de pratique, du geocaching, non? C'est le même.
Oui, c'est ça. Ouais. Avec un petit peu plus de.
Un peu plus poussé, oui, pour le coup, ça c'est vraiment un peu plus poussé, avec un univers vraiment construit autour, un univers science-fiction très, très construit. Que j'ai caché, c'est bêtement, va là, il y a quelque chose, et tu vas là. Mais bon, c'est très sympa. Enfin, moi j'ai trouvé, j'ai pas beaucoup accroché, parce que c'est pas mon type, je suis plutôt un geek qui reste, qui bouge pas trop, mais...
Moi aussi, mais j'ai besoin de bouger, alors c'était une bonne occasion. Ce qui fait qu'il y a une bonne ambiance autour de ce jeu aussi, c'est que Google a produit du contenu exclusif, des images, des audios, pour essayer de donner un univers un peu sympathique, quoi.
Mais c'est ça, voilà, c'est un univers vraiment bien construit et bien ancré, avec une belle histoire de science-fiction. Et donc ici, ben, l'idée qui circulerait actuellement, ce serait de lancer une série TV sur Ingress, justement, sur l'histoire qui est autour, sur l'univers qui est autour. Voilà, Google aurait ça apparemment en tête. Ils auraient déjà même établi un partenariat avec un studio qui est Sean Daniel Company. J'ai personnellement jamais entendu parler, mais pour ceux qui
Moi
connaissent.
Non plus.
Ben, ils ont apparemment, si je lis dans l'article là, ici, c'est pas de mémoire du tout, je l'avoue. Le producteur a travaillé sur la franchise de films La Momie, mais également sur la série Space Opera The Expanse. Ouais. Bon,
ça inspire pas.
Voilà. Et donc, apparemment, ils cherchent des partenariats avec des chaînes de télévision ou des services comme Netflix pour investir dans le projet et pour arriver à une éventuelle diffusion. Qui sait ? Moi, je suis pas grand joueur, mais si tu me dis que l'univers est vraiment bien construit, ça peut peut-être
arriver
quelque chose.
Même sans être joueur, l'idée, c'est qu'il y a il y a quelque chose qu'on ne connaissait pas, qui sont les portails qui permettent de récupérer de l'énergie, etc. Il y a deux camps qui s'affrontent, donc c'est un pitch de base pour une série un peu science-fiction qui est pas mauvais, quoi. Faut voir ce qu'ils en font.
Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Il faut voir l'univers qui est construit autour, parce qu'une série. Tout le monde actuellement essaie d'adapter toutes sortes de trucs en série, parce que c'est le truc à la mode qui fait vendre, mais il faut quand même un minimum d'idées autour, de construction scénaristique, d'histoire, parce que lancer une série avec du vide, c'est bien gentil, mais ça fait pas une série, quoi, simplement.
C'est sûr.
Donc à voir ce qu'ils en feront, pour les joueurs peut-être, hein, vous pourrez peut-être me confirmer, il y a peut-être assez de contenu à votre goût. Maintenant, moi... Je sais pas, je doute un peu. Un jeu mobile, même social, en série TV.
Ah bah c'est sûr que c'est casse-gueule, quoi. Mais
ça,
après.
Ça me fait douter. J'arrive pas.
Après, je pense pas que ce soit le fait que ce soit un jeu qui aide en quoi que ce soit pour faire une série derrière. Faut voir juste comment il l'approprie et voilà. C'est un thème, point barre. Mais ouais,
ça,
faut voir ce qu'ils en font.
Il y a le thème de base et après, à voir ce qu'ils vont développer autour. Quoi. C'est peut-être ça aussi. Ils vont peut-être développer un univers, des personnages divers. J'espère qu'ils vont pas simplement nous faire le coup du monsieur et madame tout le monde qui commence à jouer à ce jeu-là et puis que ça dévie d'une manière ou d'une autre Non, ça, je... Non.
Ça pourrait pas être génial, ouais.
Restez dans le côté science-fiction, s'il vous plaît. Bon, avant d'embrayer sur les projets, je voulais faire quelques petits retours assez rapides. Je vais aller vite sur le sujet, mais sur des choses dont on a parlé dans les précédentes émissions. Et notamment, pour rester dans les séries TV, l'annonce qu'on avait faite d'une éventuelle série Zelda, produite par Netflix. Donc, Nintendo a démenti. Malheureusement à mon goût, parce que personnellement j'étais partant, ah, hein, je trouvais l'idée ça... intéressante.
Ouais, bah déjà la licence Zelda n'a pas parlé à beaucoup de monde, et ensuite Netflix, ils sont quand même très bien sortis avec les différentes séries qu'ils ont produites, donc c'est vrai que ça envoyait un peu du rêve.
Et puis l'idée d'un Game of Thrones familial, honnêtement, moi personnellement ça me parlait, je dois avouer qu'il y a beaucoup qui étaient dubitatifs, moi ça me parlait. Mais donc voilà, il y a Satoru Iwata, donc le grand patron, qui a déclaré que pour le moment, je n'ai rien de nouveau à partager avec vous concernant l'utilisation de nos licences en film ou en série. Mais je peux au moins vous affirmer que l'article en question n'est pas basé sur de bonnes informations. Donc il parlait de l'article du Times qui avait abordé l'existence d'un éventuel partenariat autour de cette série. Maintenant, ça ne veut pas dire pour autant que ça ne se fera pas. Hein. Il a juste dit que les informations n'étaient pas correctes et que pour le moment, il n'y a pas de choses prévues. Mais qui sait, ça aura peut-être donné des idées. Hein. Puis en même temps, c'était la même personne qui déclarait il y a quelques années d'ici que Nintendo ne ferait jamais de jeu pour mobile. On a vu ce que ça a donné. Donc voilà.
Gardez espoir.
News suivante, c'était, on avait parlé dans la précédente émission, il y a maintenant 3 semaines d'ici, parce qu'on a dû sauter malheureusement un épisode, enfin une date, pardon, de Dailymotion, qui était sur les rangs pour se faire racheter par des Chinois. Et visiblement, ce ne serait pas la seule possibilité qui est à l'étude pour le moment, puisque Fimalac, donc la société mère de... qui a racheté jeuxvideo.com récemment. Webedia, j'y arriverai.
Je l'aurais pas eu.
Il a fallu sortir celui-là. Donc la maison mère de Webedia serait sur les rangs pour acheter une partie ou peut-être l'intégralité de Dailymotion. Donc voilà, wait and see, mais au moins ça resterait franco-français, comme vos politiciens aiment bien le souligner.
J'avoue, voilà. C'est sûr.
Et ça ferait partie pour le coup d'un gros groupe, parce que Fimalac et donc Webedia, c'est quand même pas rien, quoi. Il y a de la force de frappe derrière, au moins. Au contraire de ce que c'était. Parce que pour le coup, moi, j'étais partisan du rachat par Yahoo il y a quelques années d'ici. Hein. Je trouvais que c'était vraiment le.
Ouais. Il y a eu des interventions de la part du gouvernement qui sont un peu étranges.
Oui, on a trouvé aussi dans cette émission. C'était. Yahoo aurait été le partenaire de choix pour le développement international de Dailymotion, franchement. Ça a été vraiment... Je reste partisan de ça. Mais non, bon, Fimalac, c'est quand même pas petit non plus, mais le problème, c'est qu'est-ce qu'ils vont en faire derrière en termes de ou contenu éditorial ou... pour le moment, ce qu'ils font avec leurs différentes plateformes, c'est pas du goût de tout le monde. Bon, et alors, dernier retour sur projet. Je vais vite, hein, mais c'est les petits retours. C'est nos amis de Peeble, hein, donc j'avais parlé dans la dernière émission, pour la deuxième fois d'ailleurs, de la Peeble Time, qui est en train d'exploser les scores sur Kickstarter. Hein. Et ben ça y est, c'est fait. Donc évidemment, ils ont été paqués, ils ont réussi leur crowdfunding, ça on s'en doutait. Et ils ont battu tous les records, puisqu'ils sont le plus gros crowdfunding jamais réalisé. Avec, attention, tenez-vous bien, 20 338 986 dollars. Rien que ça.
Joli score.
Ouais, quand même pas mal. Hein, c'est... ben, on les sentait bien partis depuis longtemps pour être le projet Kickstarter le plus gros. Et voilà, effectivement, c'est réussi. Là, je crois qu'ils n'ont plus rien à prouver. C'est la star du crowdfunding, quoi.
Mm-mm.
Et donc, comme je le disais en off, ben... Je l'ai backé, donc je vous en reparlerai pas tout de suite parce que j'ai backé la Peeble Steel Time qui n'arrive qu'au mois de juillet, si tout va bien. Donc, mais je vous ferai très certainement un retour d'ici là quand je la recevrai. Voilà, c'était condensé mais intense. Bon, ben si tu veux bien, on va passer au projet. Hein,
Avec plaisir.
Ah, je vois que je reprends encore la parole, décidément.
C'est ça, je te la laisse. Tu vas avoir soif.
Ouais, là, bah, écoute, pour le coup, je me permets, c'est rare que je le fasse en direct, mais je vais boire une gorgée.
Ah bah vas-y. Il faut bien se rafraîchir un petit peu, sinon tu vas finir par perdre ta voix, ce serait dommage.
Ouais, là, je n'y arriverai plus. Alors, bah, écoute, le premier, de toute façon, c'était pour aller très vite, mais c'était pour saluer nos amis de chez PodCloud. Qui nous gracieusement nous fournissent leurs services, nous hébergent, etc. Ils m'ont fait découvrir un petit site très sympa, il s'appelle Rébus-O-Matic, qui permet de créer des rébus en fait. Donc tu arrives sur le site, tu as un cadre, je sais pas si tu as été voir, hein, mais.
Je suis dessus en
Ah
fait.
ben voilà, c'est pour ça que tu tapes. Donc tu tapes simplement dans le cadre quelque chose, par exemple les projets du web, voilà, j'ai tapé. Tu sélectionnes une petite taille d'image pour dire si tu veux des images moyennes, petites ou grandes, mais bon, voilà, moi généralement en moyenne. Tu cliques sur Abracadabra et hop, ça te sort un rébus. Pour le coup, les projets du
Ah oui,
web.
d'accord.
Ah bah tiens, je vais mettre en image d'illustration le rébus, à mon avis. Alors enfin, ou du moins dans le descriptif. Ce ne sont pas toujours faciles parce qu'évidemment, parfois, c'est des mots un peu avec des accents ou certaines liaisons qu'il peut pas comprendre.
Ouais.
Mais dans l'ensemble, c'est assez
Ouais,
réussi.
non, ça m'arrange. Je regarderai un peu plus en
Voilà,
avant.
donc Rébus-O-Matic. Bon, premier projet sérieux, si je peux dire entre guillemets, je l'ai reçu de Barberousse, qui est l'animateur de Queen Novi, entre autres choses, qui m'a envoyé qui a envoyé sur le Twitter des projets du web un petit projet sur Kickstarter assez sympa. Il s'appelle Magzet. Donc Magzet. Donc c'est un projet qui a pour but en fait de faciliter la connectique jack. Donc on est tous déjà ça nous est tous déjà arrivé d'avoir une prise jack branchée pour nos écouteurs, pour écouter un peu de musique ou un podcast, et soit qu'elle se débranche par mégarde avec un faux contact, soit que au moment où on doit se lever, pouf, on oublie la prise jack, on l'arrache. Enfin, il peut y avoir plein de cas de figure. Et donc, ce que ce projet propose pour faciliter les choses, c'est une sorte de connectique intermédiaire aimantée. Donc, il y a un petit connecteur jack avec au bout un petit tout en métal, enfin tout est petit dans ce que j'explique, mais un petit tout en métal magnétique qu'on met dans son device, hein, simplement. Donc, ça. C'est très petit, hein. Donc même dans un téléphone, ça laisse paraître que un tout petit bout de métal en dessous, vraiment minime, vous irez voir les images, hein, mais c'est rien du tout. Et donc à ce bout de métal vient ensuite se connecter un autre, je me répète, mais un autre connecteur qu'on met au bout de son casque ou de sa prise jack, qui est lui aimanté. Et qui va faire la liaison avec cette connectique. Donc simplement on l'approche, c'est aimanté, ça se colle l'un à l'autre, et bouf, vous êtes connecté, voilà, le son passe. Et au moment où vous devez débrancher, vous devez partir, ou vous voulez arrêter, vous tirez simplement, pour retirer un peu comme les systèmes MagSafe pour charger les MacBooks par exemple, pour ceux qui connaissent. Hein. Donc vous tirez simplement, et bouf, ça se détache sans endommager quoi que ce soit, sans tirer le device avec vous, ça se décroche et ça coupe le signal, tout simplement. Donc c'est vrai que j'ai trouvé ça assez pratique, pour ceux en tout cas qui ont souvent un casque branché. Hein, je trouvais ça assez sympa, assez bien pensé. Pour le moment, le projet Kickstarter, donc ils essayent d'avoir 294 ou 294 pour amis français, hein, 294 000 dollars. Ils n'en sont qu'à 90 179 ici, et donc le 7 du 4. Mais il en reste encore 24 jours. Donc voilà, enfin, je sais pas.
Ça va être un peu dur, mais c'est toujours
Voilà, c'est ça.
possible.
On ne peut pas toujours deviner avec Kickstarter. C'est pas évident, surtout sur des montants pareils. Selon moi, ils demandent beaucoup. Hein. Je trouve que c'est un peu élevé pour. C'est un beau projet, mais c'est
Bah,
un peu chéreux.
c'est ce qui fait peut-être un peu peur, c'est à se demander s'ils ont vraiment la technologie qui marche déjà. Parce que c'est vrai que le côté hyper compact du côté du jack et après de l'autre côté sur, enfin, du côté téléphone, on va dire, et le branchement jack est un peu plus gros, mais ça peut rester bien. Au début, j'étais sceptique quand j'ai vu le concept, et puis c'est vrai qu'à l'usage, si on en a deux par exemple, ça peut être très pratique, c'est-à-dire qu'on laisse les jacks branchés dans les différents prises femelles, et on se balade avec notre câble et on s'aimante n'importe où. Ça peut être vraiment bien. Mais bon, à voir. C'est vrai qu'il demande beaucoup quand même, c'est ça qui fait un peu
C'est vrai que
peur.
c'est une chose, quand, voilà, à mon, bon, moi je dis précédent boulot maintenant, j'arrivais effectivement, après mon trajet en train, avec le casque connecté à mon téléphone. Bon, j'étais en Bluetooth, hein, donc c'est un peu différent, mais et j'arrivais au boulot, ben, je devais déconnecter le Bluetooth, venir connecter ma prise jack au PC et repartir sur le PC pour la suite. C'est vrai que là, avec un système comme celui-là, ben, je suis branché, je suis aimanté à mon téléphone, j'arrive au boulot, j'ai juste à tirer, à venir mettre sur l'autre, effectivement, en
Le
bout
rapprocher.
du PC, et hop, c'est parti, quoi, effectivement. Mais après,
Ça peut être sympa.
je sais pas, le montant demandé, sur des projets comme ça, on a plus l'habitude d'avoir justement des montants proches des 50 ou 100 000 dollars. Mais là, presque 300 000, c'est quand même énorme. Ils ont déjà plus de 1 700 personnes qui ont backé, et ils sont à... c'est quel pourcentage, ça? C'est même pas un tiers, quoi. Ça fait un peu peur.
Et puis le ouais.
Mais bon, le projet est beau et bien
Ouais, bon.
pensé, ça,
C'est le
honnêtement.
principe de ouais. C'est aussi le principe de Kickstarter, hein. Du coup.
Deux.
De parier sur des choses. C'est aussi le principe de Kickstarter, de parier sur des choses qui sont pas qui n'auraient pas forcément trouvé financement
Ah oui,
autrement,
non,
quoi.
je suis d'accord, mais il y a quand même des tendances qu'on remarque sur ce genre de plateforme qui sont pas, qu'il faut pas négliger non plus, quoi. Il y a ça aussi, donc. Après, ici, bon, ils sont tous partis parce que voilà, il y a toujours un premier palier pour les early backers, mais le premier palier était à 20 dollars. Je trouve pas ça hyper cher non plus. Donc, je me demande s'ils auraient pas dû doser peut-être en demandant un peu moins et en mettant par exemple un peu plus cher ce premier palier ou. Je sais pas, j'ai l'impression de mauvais dosage qui fait que ça n'aboutira pas, mais c'est peut-être mon ressenti. Hein, et c'est dommage parce que le concept, honnêtement, est très sympa, je trouve.
Bon, à suivre en tout
Voilà,
cas.
à suivre. Donc ça s'appelle MagZ, donc MAGZET. Voilà, bah, à toi de présenter ton premier projet.
Je reprends la main pour présenter un jeu que j'ai trouvé vraiment intéressant dans son genre, c'est-à-dire que il sera adapté pour les personnes aveugles. Ça s'appelle A Blind Legend. Et l'idée, c'est d'avoir un jeu à part entière sur smartphone, mais qui se joue quasiment uniquement à l'oreille, puisqu'il faut bien quand même avoir une interface. Mais typiquement, l'écran pourrait très bien rester noir et juste capter les mouvements qu'on fait en multipoint sur l'écran. Et il développe un, je sais pas comment on peut appeler ça, mais un moteur, voilà, un moteur audio pour utiliser. Alors, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros. Ce qui nous permet de savoir si un son vient de derrière nous, d'au-dessus de nous ou de devant nous, si on ferme les yeux, c'est la forme de notre oreille. C'est-à-dire que nos oreilles déforment les ondes sonores qui viennent ensuite taper sur le tympan. Et selon la façon dont est déformée l'onde audio, le cerveau va pouvoir savoir si ça vient plutôt de devant, plutôt de
C'est pas
derrière, etc. Donc on peut
la
vraiment être.
spatialisation, c'est pas ça le terme?
Je vais la retrouver dans pas très longtemps, mais normalement non, c'est un son bi, je sais plus quoi.
Alors là.
Non, moi, j'arrive pas à retrouver en deux petites secondes. Mais en gros, il y a moyen de générer des sons avec deux écouteurs, mais qui imitent cette déformation en fait. Ce qui fait qu'on va vraiment avoir l'impression, c'est un peu de la spatialisation, mais enfin, j'avais vu différents, voilà, un son
Binaural.
binaural a priori. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, avec ça, théoriquement, on peut très bien s'imaginer un environnement complet avec des bruitages, etc., etc., des voix, et on pourrait très bien jouer sans nos yeux, en fermant les yeux, en jouant, etc. Donc j'ai trouvé le projet vraiment très original et très intéressant. Moi, j'ai vraiment hâte de pouvoir l'essayer. J'ai déjà essayé une démo. Il y a une démo quelque part sur leur site, qui est www.ebindlegend.com. Slash démo, et on peut télécharger une application Windows ou Mac pour essayer ça. On a une voix d'une fille qui tourne autour de nous, et le but c'est essayer de la rattraper en fait. Au niveau de l'histoire, c'est l'histoire d'un guerrier qui vient de se faire. Je crois qu'il y a sa femme qui s'est fait enlever, Et il s'est fait crever les yeux, en fait. Il s'est pris un mauvais coup d'épée. Il vient de perdre les yeux. Et si j'ai bien compris, il sera avec sa fille qui va le guider pendant le voyage, ce qui permettra d'avoir forcément un artifice pour dans le jeu audio. Et l'idée, c'est de parcourir différents terrains, de se battre contre des ennemis et d'avancer dans l'histoire. Donc, je suis vraiment très très enthousiaste à propos de ce jeu et j'attends de voir comment ça se développe. Voilà.
Non,
Après, j'ai
très
pas grand-chose de plus à dire.
franchement, j'avais jamais entendu parler de ce type de jeu et l'idée est assez sympa, je trouve. Même pour une personne qui est voyante, hein,
Oui.
ça change. Par
Bah.
contre, une question, comment est-ce que tu fais sur Windows par exemple ou sous Mac? C'est avec tu maintiens quand même la souris et tu dois orienter la souris dans.
De mémoire, je crois que c'est des touches du clavier. C'est un déplacement ZQSD, quoi.
Ah oui, ok. Parce que je me demandais comment ils adaptent aux personnes
C'est.
aveugles l'utilisation. Parce que sur un smartphone,
Non, mais voilà.
t'as un.
Pour
Comment ça
le.
s'appelle? Un.
À terme, le jeu ne sortira que sur Android. J'ai pas été très. Enfin, Android, non, je sais pas. Sûrement les deux plateformes, d'ailleurs. Mais que sur mobile. Mais là, ce qu'ils proposent sur ordinateur, c'est une démo technique, en fait, pour montrer déjà, c'était pour le Kickstarter, ça a été kickstarté ce projet, c'est terminé depuis un bon petit moment maintenant. Et c'était pour montrer un petit peu où ils en étaient, ils avaient déjà commencé à développer le moteur audio, quoi.
C'est voilà
Donc c'est
un
vraiment,
accéléromètre, j'ai
c'est
retrouvé le
pour
nom.
tester.
C'est ça que j'ai retrouvé le nom. Sur un smartphone, t'as un accéléromètre, c'est ça, si j'ai pas de bêtises,
Oui,
qui permet
oui.
de savoir spatialement où tu te trouves, donc tu peux encore dire de
Comme.
l'agiter, de faire que un clavier ou une souris, c'est vrai que t'as moins les. Enfin, moins avis quand t'es
Non, et
aveugle,
puis
quand je
même
suis pas.
l'écran, ça pourrait se jouer très bien par mouvement aussi, pour les différentes attaques verticales, horizontales, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Je sais pas exactement à quoi ça va ressembler à la fin, mais je suis de ça de près.
Ben écoute, c'est un projet assez original, franchement, j'avais jamais entendu parler, donc je vous encourage à aller voir. Donc, Blind Legend, donc une légende aveugle, hein, on peut résumer ça comme
C'est
ça.
ça.
En plus, c'est un
C'est
joli
ça.
titre, assez poétique. Donc voilà. Ok, ben écoute, moi j'ai découvert ici un petit projet dont je vous parlais qui regroupe deux. Enfin, deux de mes passions. Surtout une en fait, mais voilà, c'est un festival qui s'appelle BD Ciné, donc BD le chiffre 6 NE, qui est un festival en fait dont j'avais jamais entendu parler, pourtant c'est déjà la troisième édition quand même, hein, donc je suis comme quoi je suis vraiment passé à côté, qui s'intéresse à la bande dessinée liée au cinéma, si on peut résumer ça comme ça. Donc ici, j'ai entendu parler d'eux en fait parce qu'ils ont lancé un crowdfunding qui s'est terminé le 28 mars sur Ulule pour organiser leur troisième édition qui aura lieu bah, très bientôt en fait du 23 au 26 avril à Paris. Et donc c'est un festival consacré en fait à tout ce qui est lien entre la BD et le cinéma et Dieu sait qu'il y en a surtout depuis quelques années. Hein, on compte plus le nombre d'adaptations de BD en film, voire même parfois, malheureusement, de licences de films qui sont adaptées en produits dérivés en bande dessinée. Ça, je dis malheureusement parce que généralement dans ce sens-là, c'est pas toujours, ben, je trouve pas toujours très glorieux. Donc bon, voilà. Donc j'avais jamais entendu parler de ce festival et honnêtement, c'est le genre d'événement où je me rendrais bien juste pour voir. C'est dommage que ce soit toujours un peu loin de chez moi. Hein. Jamais rien en Belgique, mais si vous êtes de la région de Paris, ben, je vous encourage peut-être à aller faire un tour. Ça débute le jeudi 23 avril avec une soirée d'ouverture et ça continue avec différents invités jusqu'au samedi 25, au dimanche pardon, 26 avril. Donc voilà, ça s'appelle BD Ciné, donc BD le chiffre 6 NE. Voili voilou.
Ben, je vais reprendre la suite avec
À tes
habitrpg.com.
souhaits.
C'est un site qui, enfin, pour s'organiser, pour faire des listes de tâches en fait. L'idée, c'est de rajouter un gros côté gamification à toutes les to-do list qu'on pourrait se créer. J'ai utilisé pendant pas mal de temps en fait. L'idée aussi qui est sympa, c'est de pouvoir se faire des groupes, en fait, voir l'évolution des autres personnes, etc. Donc, on va créer, il y a différentes colonnes. Enfin, on arrive sur une interface assez jeu avec son avatar qui au début est tout simple, trois jauges, une de vie, une de comment dire, d'endurance et une de mana, il me semble, je m'en rappelle plus en fait, ça fait longtemps, je m'en rends compte. Et on va pouvoir créer dans les différentes colonnes qui sont plutôt bien pensées, je trouve, c'est-à-dire qu'on a les habitudes, des choses qui vont revenir de manière régulière, donc on va programmer à combien de temps ça revient, on pourra les faire de manière régulière. Des choses qui seront faites uniquement, enfin avec une date où ce sera échu, donc il faut le faire avant. Et une dernière colonne où on a les to-do, c'est-à-dire les choses diverses et variées qui peuvent arriver, donc vraiment une to-do list. Et on a des récompenses qu'on peut récupérer. Et l'idée, c'est qu'on va affecter à chacun de ces items une difficulté, qui va faire qu'une fois qu'on l'aura réalisé, on gagnera de l'expérience, on pourra faire monter notre petit personnage qui va obtenir des capacités en plus pour essayer d'avancer plus vite, etc. Il n'y a pas de vrai réel but à atteindre, c'est juste une to-do list avec un fort côté jeu pour que ce soit un peu moins rébarbatif à faire et même donner l'envie de faire des choses. Donc j'ai trouvé ça super bien, c'est gratuit, il y a forcément un mode premium, mais qui fait juste, enfin c'est plutôt pour remercier la personne qui a créé le site que pour vraiment gagner quelque chose, parce que comme j'ai expliqué, il n'y a pas grand-chose à gagner. Donc j'ai trouvé le principe super bien. J'avoue que je l'utilise plus maintenant, mais parce que j'ai trouvé autre chose que je vais vous parler dans mon projet principal qui a remplacé un petit peu ce que je faisais là, j'utilise un petit peu. Mais et puis ils arrêtent pas d'évoluer, je suis en train de en revenant dessus régulièrement, je me rends compte qu'il y a de plus en plus de possibilités, etc., etc. Donc ça fait un petit jeu, mais en se motivant pour faire toutes les tâches qui peuvent être rébarbatives à faire au quotidien.
C'est important. Non, en plus, tout ça, c'est la gamification. C'est un truc qui est. Enfin, moi, en tout cas,
Qui est en vogue.
me pousse. J'ai un Fitbit justement pour
Oui,
ça.
je regarde le mien là.
Et ben voilà. Parce que justement, il faudrait d'ailleurs qu'on se connecte, qu'on se retrouve dans une communauté ou autre. Mais
Oui.
ça pousse vraiment à se dire ah tiens. Un tel a fait autant de pas en plus que moi, je vais en faire autant. Ah tiens, si je fais autant de pas, j'ai ma récompense. Bon. Et ça pousse
C'est
vraiment à faire
ça.
des choses. Et moi, je suis assez partisan de cette gamification, justement, de donner l'envie à la manière d'un jeu, en fait, de faire des tâches ou des choses un peu plus parfois rébarbatives. Et c'est vrai que ça me pousserait à le
Oui,
faire. Donc
c'est.
je vais tenter le coup, je vais essayer un petit peu, on va voir ce que ça va donner. Je pense que je vais le tenter.
Autour de la gamification, il y a pas mal même de recherches qui sont faites, etc. Et il suffit, même s'il n'y a absolument rien à gagner, même si c'est des sneakers, bien sûr, des stickers, des petits trucs sans importance, le simple fait qu'il y ait quelque chose à atteindre, ça, c'est plus facile, ça donne envie, ça motive, etc. C'est vraiment quelque chose qui se développe par rapport à ce que c'était il y a quelques années, c'est pas non plus mainstream, mais ça devient intéressant.
Et pourtant, ça pourrait tendre à le devenir. Il y a beaucoup de gens qui seraient sujets justement à se laisser embrigader dans le jeu et que ça
Il y a
se.
de la gamification. On trouve de la gamification simple à beaucoup d'endroits maintenant, simple, je veux dire des simples trophées, dans plein plein d'applications, dans plus ou moins, enfin même très sérieuses, on trouve des petits points, des petits trophées à atteindre. Par contre, il y a des, comment dire, il y a des théories un peu plus poussées sur qui sont rarement utilisées, puisque ça, là par contre, c'est encore un peu inconnu, quoi. Non, mais en tout cas intéressant, quoi.
Non, effectivement, je vais tenter le coup, je ferai si je l'utilise, mais je pense que je l'utiliserai, je vous ferai un petit retour. Voilà.
Bah,
Je vous
parfait.
dirai ce que ça va apporter.
Un deuxième avis.
Voilà, exact. Bon, je vais terminer ici parce que je dois t'avouer que j'avais noté un projet il y a quelques temps d'ici, hein, puisque, comme on vous l'expliquera dans la conclusion, on a dû sauter une semaine. Mais je ne sais pas si tu essaies de te rendre sur le site, ce projet semble déjà mort. Le système claque
Ah,
des doigts, pour ne pas le citer,
j'ai pas vu.
que j'avais noté, ne semble plus en ligne. Donc je vais sauter ce projet-là. Hein, ça n'aura visiblement pas marché, pas duré. Pour juste rigoler un petit coup, si on peut dire. Bon, faut le dire vite. Avec une personne qui a lancé un Kickstarter débile, comme on en voit beaucoup. Et qui étonnamment ne va pas se retrouver sur la page, j'ai oublié le nom, mais c'est Kickhead, si je dis pas de bêtises, dont j'avais parlé dans la précédente émission, qui référençait les Kickstarter ayant atteint 0$. Puisqu'ici, il a quand même récolté 31$ sur un objectif de 500. Donc, il y a quand même 4 personnes qui ont osé backer ce projet, qui s'appelle Backup Internet, et qui, en fait, c'est une personne qui se proposait de sauvegarder purement et simplement Internet sur un DVD, et de vous l'envoyer. Je crois que ça se passe de commentaires, hein. Je crois que la majorité des auditeurs auront compris. Et le pire, c'est que les gens qui ont laissé des commentaires en lui posant la question, en lui disant que... il y a plusieurs qui ont essayé d'étayer de manière sérieuse en lui disant, par exemple, il y a une personne qui a commenté en disant oui, Google a indexé à lui tout seul plus de 200 TB de données à l'heure actuelle, ce qui fait environ 40 000 DVD, et Google estime qu'ils n'ont fait que 0,004% de l'Internet mondial, réfléchissez 5 minutes, c'est juste etc.
C'est juste indexé.
Oui, c'est ça, et réfléchissez 5 minutes. La personne, toute sérieuse, a répondu que ses calculs. Sa méthode de calcul propriétaire, qu'il ne peut malheureusement pas dévoiler, lui a fait arriver à la conclusion qu'avec 500$, il pouvait compresser l'Internet au complet sur un DVD.
Ça sent la malhonnêteté quand même.
Légèrement. Je me demande d'ailleurs comment Kickstarter a pu valider un projet comme celui-là, très honnêtement.
Oui.
Bon, ça c'est encore aussi... C'est sûr. Décidément, je renvoie beaucoup aux émissions précédentes, mais Mathieu nous parlait dans la précédente émission d'une personne qui s'était amusée à tester les plateformes de crowdfunding et leur sérieux en essayant de lancer un projet complètement farfelu de machine à remonter le temps pour voir lesquels l'accepteraient, lesquels l'accepteraient pas, enfin qui étaient les mauvais élèves, qui contrôlaient bien. Là, pour le coup, je suis assez étonné qu'une plateforme aussi sérieuse que Kickstarter ait essayé de passer ça. Mais bon.
Parce qu'il me semblait que c'était les mieux notés, non ?
C'était parmi les mieux notés, justement. Ouais, ça m'a assez étonné. Mais non, bon, il a peut-être proposé ça différemment aussi. Mais bref, voilà, un petit projet pour rigoler. on a tous compris que c'était de la vaste blague. Bon, oui. Je vais te laisser commencer sur les mises en évidence, hein, puisque tu nous as teasé ton projet. Tu vas nous parler de gamification, c'est ça ? Non, to-do list ?
Non, l'inverse, des listes, voilà. Ouais. Pas forcément to-do, mais un outil que j'utilise quotidiennement, qui est vraiment devenu hyper important dans mon petit quotidien, tant au niveau professionnel qu'au niveau personnel, c'est Workflowy, donc de workflowy.com. Donc c'est le premier qui sort. C'est un outil de productivité pour moi. Alors, description du projet. Ça va être un peu dense. Je vais essayer de faire vite et clair pour pas vous endormir.
Non, mais tu as un peu de temps. On est dans les temps. Ne te tracasse pas.
Ouais. Non, mais bon. Si tu voyais ma liste de choses que j'ai à dire, tu serais peut-être plus inquiet. Alors, au niveau des fonctions, basiquement, c'est une liste de points et de sous-points avec énormément de flexibilité et d'efficacité pour l'utiliser. C'est tout bêtement ça. Qu'est-ce que ça peut faire ? Alors, on peut... Ah oui, déjà, quelque chose qui est très important, on peut absolument tout faire avec des raccourcis clavier, ce qui, pour moi, est très très important, puisque je me trouve beaucoup plus efficace au clavier qu'avec une souris à chercher une ligne, sélectionner, etc. Ça vient peut-être du fait que je suis développeur, mais je pense quand même qu'il y a une part de vérité.
Non, il y a une part de vérité, je pense aussi.
Voilà, donc... Absolument tout est faisable au clavier. D'ailleurs, il y a une espèce de petit post-it sur le côté avec tous les raccourcis clavier pour les apprendre au début, que je trouve très pratique. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Alors, liste de points et sous-points. On pourrait comparer ça à une liste de points sous Word, c'est-à-dire que on peut faire des sous-points à l'infini, rentrer dedans, etc., etc. C'est vraiment le produit basique. On peut faire de la mise en forme basique à l'intérieur, donc gras, italique pour chaque ligne, pour mettre des choses en évidence, etc. Mais ce qui est intéressant après, là on rentre dans les côtés un peu plus intéressants, c'est qu'une fois qu'on a fait notre liste de points et de sous-points, elle peut vraiment être très très touffue, c'est-à-dire que comme une mind map, c'est-à-dire qu'on peut balancer beaucoup d'idées, etc., etc. Et là où c'est sympa, c'est qu'on peut sélectionner plusieurs lignes, donc ça va faire un bloc qui se colore en bleu clair, et on peut cliquer dessus, le déplacer, ou utiliser un raccourci clavier qui va permettre de déplacer le bloc, remonter le bloc dans les lignes et séparer. Donc du coup, une fois qu'on a tout écrit, on peut réorganiser ça de façon très 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 simple. Et ça, par exemple, dans Word, déjà, c'est plus compliqué, ça se fait à coup de copier-coller, c'est pas toujours heureux. Donc c'est un premier point où il améliore le principe de la liste. Ensuite, pour chaque ligne, on peut lui assigner une note, c'est-à-dire qu'on analyse de point sous point. Là, c'est du bonus, c'est-à-dire qu'on peut dire, là, j'ai une grosse description, sauf que si je la mets dans ma liste, ça va faire un gros bloc et on va plus rien comprendre. Alors, je vais le mettre dans une note sur un point, je mets juste un résumé, je fais Shift Entrée ou alors il y a... Non, je crois que c'est que Shift Entrée, je crois pas qu'il y ait moyen de le faire de manière à la souris, enfin, je le connais pas. Et là, on va pouvoir mettre un gros bloc. Une fois qu'on sera sorti du bloc, on aura juste la première ligne qui sera affichée, sauf si on vient sur ce point où le bloc va s'étendre pour qu'on puisse savoir de quoi on parle. Donc, ça permet de garder une liste, vraiment une liste d'idées, quoi, pour être sûr de toujours rester clair. Après, là où ça rentre un peu plus profondément qu'une liste de points, c'est qu'on peut décider qu'une ligne va être complétée. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura fait contrôle entrée ou qu'on aura choisi compléter dans un menu déroulant, la ligne va se rayer et on peut choisir d'afficher ou de ne pas afficher la liste rayée. Ça permet d'avoir une archive de tout ce qu'on a déjà fait. Je donnerai après, bien sûr, des exemples de comment l'utiliser, enfin moi, les exemples que j'ai trouvés de comment l'utiliser et pourquoi c'est un outil que je trouve vraiment polymorphe. On peut faire plein de choses avec. On peut forcément supprimer une ligne, sinon ce serait un peu moins facile. Donc on peut prendre un bloc et demander de supprimer toutes les lignes, ou alors on peut choisir d'effacer ligne à ligne. Tu me dis hein, si je suis pas clair, parce que j'essaie d'être clair, mais c'est pas forcément facile.
Non, mais voilà, c'est pas évident non plus de l'aide, il faut aussi tester, mais pour le moment, ça paraît logique, ça paraît clair.
D'accord. Donc voilà. Là où c'est sympa, c'est qu'on peut plier et déplier des points. C'est-à-dire qu'on a tout, on a par exemple, j'en sais rien moi, on veut faire des travaux chez soi, on a plein de points, sous-points, de choses à penser, à acheter, etc. Ça, si jamais ça prend trop de place, on peut cliquer sur un petit plus qui apparaît quand on est au niveau de la ligne, et tout va se refermer en fait pour ne voir que rénovation de la pièce qui était intéressante. Et du coup, on peut se concentrer sur les autres points ou sous-points qu'il y a. Ensuite, on peut aussi, et là ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, si jamais on clique sur le point d'une ligne, ça va devenir, comment dire, on va avoir uniquement ce point-là, c'est-à-dire que le nom de la ligne, par exemple, en fait j'ai fait tout ce qu'il fallait que j'explique, et je l'ai mis dans mon Workflowly pour pouvoir l'avoir en direct. Si jamais je clique sur la ligne actuelle qui s'appelle rentrer un point devient une sorte de titre, et j'ai plus que les sous-points visibles à mon écran. En haut, j'ai une sorte de vous êtes ici qui me dit tous les points qui sont au-dessus pour que je puisse revenir en arrière. Mais du coup, ça me permet de me concentrer uniquement sur le point actuel. Je vous expliquerai après, mais au niveau de mon travail, ça me permet de créer une ligne pour chaque tâche que j'ai à faire. Et quand je suis sur une tâche en particulier, je clique dessus, c'est elle qui prend toute la place et je ne vois que ça. Je ne suis pollué par rien d'autre. Je trouve ça vraiment, vraiment très, très intéressant. Alors après, on a aussi un système de favoris, c'est-à-dire s'il y a des points où on revient régulièrement, on peut les enregistrer pour switcher rapidement vers ces favoris-là. On peut chercher un terme dans tout ce qui est affiché. C'est très très efficace. Après, ça se fait à chaque touche, c'est-à-dire que chaque fois qu'on tape une lettre, ben la liste se réduit sur que les termes qui correspondent à ce qu'on vient de chercher. Ce qui permet de retrouver même sur des listes assez énormes, en quelques mots-clés, ça permet de retrouver ce qu'on cherche. Oui, et pour aller, ouais, non, c'est ça en fait. Mettre favori, etc., etc. Donc là, j'ai expliqué toutes les fonctionnalités. C'était peut-être un peu dense, mais pour l'instant, c'est au moins vous savez toutes les différentes possibilités. Moi, j'ai trois façons de l'utiliser. Déjà, je m'en sers comme une liste de courses. C'est-à-dire que j'ai des points, enfin, j'ai mes différents magasins. Dans chaque magasin, j'ai une liste de points qui sont les rayons, les différents rayons où j'ai trouvé les éléments. Et ensuite, dans ces rayons, je mets tous les produits que j'ai besoin d'acheter, enfin que j'utilise au quotidien, et je les coche ou je les décoche selon que je les ai achetés ou pas. Mais le gros avantage, c'est que vu que c'est une application web principalement, une application sur Android, mais je soupçonne que ce soit juste un package du site, et ce qui fait que si jamais je fais les courses avec quelqu'un d'autre, la liste va se mettre à jour en direct, mais à quelques secondes près, en 2-3 secondes, c'est resynchronisé. Ça permet vraiment de travailler en parallèle ou de faire des choses en parallèle. Et une fois que tous les articles sont cochés, donc j'ai plus rien à acheter, la prochaine fois que j'ai besoin d'aller faire les courses, je peux très bien regarder tout ce que j'ai l'habitude d'acheter pour vérifier si chez moi j'ai rien à acheter. Donc au début, c'est juste une liste de points et de sous-points, mais la façon de l'utiliser, ça permet vraiment de faire des choses très très pratiques en fait. Après, dans l'organisation du travail, moi, c'est comme, enfin, professionnellement, j'utilise aussi. Ça me permet de, comme je l'ai expliqué, de créer un point par tâche et de détailler, de faire des sous-points, des sous-points, des sous-points. Ce qui fait que quand j'ai quelque chose à faire et que c'est nouveau ou qu'il faut un peu réfléchir dessus, ça permet de l'utiliser en même temps comme une mind map. C'est-à-dire de jeter ses idées, de créer des sous-arborescences pour détailler certains trucs qui peut-être après ne serviront à rien. Et surtout, voilà, une fois qu'on a bien exploré quelque chose, ben, on replie le point. Comme ça, on le voit plus et on peut se concentrer sur les autres points qui restent à faire. Et ça nous permet, ça, pour moi, ça, c'est une liste, mais qui permet également de regarder la même chose sous différents angles, en fait. En rentrant sur un point, donc on voit plus que ça, on est concentré dessus, ou en dépliant, repliant, ça nous permet de voir où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on a bien tout cherché, etc. Et puis le dernier exemple, ben, je l'ai déjà donné, en fait, c'était la mind map. Donc, parce que une mind map, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Donc, c'est une idée principale et des idées secondaires qui en sortent et chaque idée secondaire, etc., etc. Donc, si en fait, on peut très bien reprendre une mind map et la faire sous forme de liste, en fait, puisque finalement, ce n'est que des embranchements. Ben, j'ai fini pour l'explication des fonctionnalités de moi, ce qui m'intéressait dedans par rapport à l'utilisation. Gratuite, payante, etc. Il a un modèle qui est assez original, c'est-à-dire que c'est gratuit tant qu'on dépasse pas 250 modifications par mois. C'est-à-dire que on fait par exemple 200 modifications, le mois suivant on pourra re-en faire 250. Ce qui fait qu'au bout de quelques mois on peut très bien avoir des listes assez énormes et il n'y a pas vraiment besoin de payer grand-chose. On a aussi moyen de gagner des modifications par mois en invitant des amis. Ça, c'est un fonctionnement qui est assez classique. Après, on a un Workflowly Pro qui propose quelques ajouts, dont un backup sous Dropbox, des backups automatiques, enfin bref, il y a pas mal de choses. Aussi pour le partage. Ah oui, point important aussi que j'ai oublié de dire, c'est que chaque point, on peut choisir un point individuellement et choisir de le partager. Donc là, on va pouvoir avoir un lien soit en édition, soit en lecture, mais c'est juste un sous-point de notre liste que d'autres personnes auront accès en édition, par exemple, mais ça ne remet pas en cause la racine de la liste elle-même qui va permettre d'avoir plusieurs points partagés, etc. Par exemple, quand je travaille, moi, que j'ai une tâche à faire, si j'ai rassemblé plein d'informations qui seront très utiles à quelqu'un, je peux très bien récupérer le lien, l'envoyer à quelqu'un, lui peut l'ouvrir, voir où j'en étais dans mon travail, et il a directement, en fait, mes notes. C'est pas très très bien formaté, mais au moins ça permet de partager des informations très facilement. Donc pour la version pro, je reprends, le prix c'est 4 euros, c'est 5 $ par mois ou 49 $ par an, donc 20% de moins. Donc moi c'est tout pour ce sujet. J'espère que j'ai fait le tour et que j'ai pas été trop confus. Donc je sais pas ce que t'en penses, toi.
Non, non, du tout, mais moi je vais encore un projet que je vais tester, mais le problème c'est que maintenant je sais pas lequel tester. J'ai envie de jouer d'un côté, j'ai envie de bien organiser de l'autre. Je fais quoi? Non, mais sérieusement, sur ce projet-là, j'invite les gens, en même temps que t'écoutais, en fait j'ai été sur le site et j'ai lancé la petite démo qu'ils ont qui permet de tester justement les différentes fonctionnalités. Donc ce que tu résumais ici en audio, en fait, je l'ai appliqué en visuel, on va dire, et ça s'est bien fichu, et ça permet de bien comprendre justement comment chaque point fonctionne, et de se rendre compte qu'effectivement, c'est très, très pratique, très bien pensé, avec des systèmes de hashtags, une recherche, avec des points et sous-points qu'on peut mettre en titres principaux. Enfin, c'est vrai que c'est vraiment bien pensé. Je demande à voir au niveau de l'usage ce que ça pourra m'apporter de plus qu'un Trello dans mon organisation, mais je pense que je vais me répéter, je vais faire un peu de.
Ouais,
Voilà, mais je pense que c'est bien pensé.
j'avoue que dans mon usage aussi, Trello et Workflowly souvent se marchent un peu l'un sur l'autre et j'arrive pas à me décider entre les deux. Donc, bon, tu me diras ce que t'en penses, toi.
C'est vrai que c'est sympa, c'est qu'il y a plein de plateformes de ce type-là. En termes de productivité sur Internet, on trouve une quantité de choses assez énorme. Et ben c'est presque ça en finit par être une perte de temps de tester des moyens de productivité, en fait.
Oui, non,
C'est
c'est sûr,
ridicule,
c'est sûr,
mais
c'est
ça en
sûr.
vient limite. Mais voilà, quand ils sont bien pensés comme celui-là, franchement,
Bah,
ça vaut le coup de
il est
mettre
assez
en œuvre.
original en plus. Sur sa présentation, c'est vrai que j'en avais pas trop vu d'autres, même ressemblant de loin à ça.
Puis c'est utilisé par des sociétés comme Slack, qui aussi est très très bon dans le domaine, donc ça ne peut être que bien.
Voilà. Et j'ai oublié leur petit slogan en bas de page qu'on repère au bout de quelques utilisations, qui est Make List No War. Je sais pas
Oh,
si
joli,
je l'aime beaucoup.
joli.
Donc voilà.
Joli, joli. Franchement, ben, écoute, on va tester tout ça. N'hésitez pas à nous faire des retours en commentaire si vous avez tenté le coup. Hein. On a hâte d'avoir vos avis sur la question.
Si vous...
Celui-là ou comment c'était?
Habit
Habit
RPG.
RPG. Voilà. Donc n'hésitez pas, que ce soit l'un ou l'autre, faites-nous part de vos retours. Je pense que je vais tester les deux.
Bah,
Voilà,
tu vas
donc
être
j'en
productif
parlerai la
alors.
prochaine fois.
Allez.
Je vais plutôt perdre du temps le temps de les essayer, à mon avis. Bon, alors ma petite mise en évidence, avec moi tout petit aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, c'est un projet qui s'appelle Webuzz, donc Wibuzz, webuzz.it. Je suppose qu'ils ont voulu faire le jeu de mots avec Webuzzit, hein, je pense pas qu'il soit italien. Donc le principe, c'est ce qu'on appelle du... Donc on connaissait le crowdfunding, hein. Maintenant il y a j'ai un trou sur le nom, c'est extraordinaire que je viens juste de le lire à l'instant.
Du crowd speaking.
Le... Merci, merci. Oh là là,
Il n'y a pas de
dur
mal.
ce... Du crowd speaking, voilà. Donc c'est connu, hein, déjà, ça existe déjà aux États-Unis, il y a notamment Thunderclap, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce site qui fait ça, ou simplement crowdspeaking.com, que
Ouais.
je ne connaissais pas mais que j'ai trouvé par une recherche Google. Donc le principe de ça, c'est un peu l'équivalent du crowdfunding pour la notoriété, la communication. Je l'ai d'ailleurs trouvé, petite anecdote, comme ça je situe le contexte, grâce à nos amis de Close to Shop, qui est un projet dont on a parlé dans plusieurs émissions, qui avaient fait eux-mêmes un financement participatif, si je dis pas de bêtises, qui est un projet très sympa, je vous invite à aller les voir, et ils ont lancé une campagne sur Webuzzit.
Ouais.
Donc voilà, c'est par eux que je suis tombé là-dessus. Donc le principe, c'est comme le crowdfunding, on cherche des supporters, des gens qui sont prêts à nous aider à faire connaître le projet. Je vais prendre le cas justement de Close to Shop, hein, pour illustrer. Ils cherchaient 30 personnes, 30 soutiens. Et donc, au contraire du crowdfunding où il s'agit d'argent, ici il s'agit d'un message, d'une publication sur les réseaux sociaux. Donc, par exemple, ici pour Close to Shop, leur publication, ce sera une adresse par inscription, un seul mail quotidien pour tout résumer. Inscrivez-vous gratuitement, Close to Shop. Voilà, un petit slogan un peu choc. Et donc, pour les aider, ben, vous vous rendez sur la plateforme et vous acceptez de connecter un ou plusieurs comptes. Hein, vous avez le choix sur Twitter, Facebook ou LinkedIn. Et à la date qui est prévue par le gestionnaire de projet, donc ici, ça se termine par exemple le 30 avril. Hein, une publication sera envoyée automatiquement via votre compte. Bon, ça peut sembler à première vue un peu intrusif, mais bon voilà, c'est dans une optique aussi d'aide, de partage, et vous acceptez aussi la démarche. Hein. Si ça vous pose un problème, ne le faites pas, bien évidemment, il n'y a rien qui vous y force. Donc voilà, vous acceptez que l'outil contrôle votre compte. Et donc, le principe de ça, c'est d'avoir une portée virale assez énorme pour un message spécifique. Donc, on sait bien en termes de communication que c'est pas toujours évident de faire connaître un projet, que parfois on a quelques personnes qui nous suivent, on va publier un message à propos, je sais pas, admettons par exemple ici les projets du web, on va publier un message disant que l'épisode est sorti, ben on va toucher les personnes qui nous suivent. Le problème, c'est qu'au-delà de ça, on va peut-être demander des retweets, deux, trois vont en faire de manière épisodique, et c'est tout, et ça va se noyer dans la foule des tweets, dans la foule des... Tandis que là, avec le principe de le faire à un moment clé, à un moment X, avec tout un tas de personnes qui soutiennent, la portée est beaucoup plus énorme. Parce que déjà, ces personnes-là ont un certain nombre de followers qui vont voir le message, mais en plus de ça, le fait que tout arrive en même temps, ça crée un petit effet un peu buzz. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce cas-là, moi ça m'arrive régulièrement. Je vois parfois les personnes que je follow, je passe ma soirée, je vais sur Twitter, admettons, et je remarque qu'il y a un thème récurrent qui revient chez plusieurs personnes, mais j'ai tendance à aller voir. Je me dis si ça revient, c'est que c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose d'intéressant, et donc je vais m'y intéresser, je vais aller voir de quoi il s'agit. Et donc c'est là-dessus que ça se base en fait simplement cette façon de faire. Donc le fait de poster le message, par exemple. Après, je ne sais pas comment ils mesurent ça, évidemment, mais ils estiment qu'ici, par exemple, pour le cas de Close to Shop, ils ont 34 personnes, dont moi, qui ont accepté de les supporter, hein, de publier le message. Et ils estiment que la portée sociale, donc le nombre de personnes que ça touchera, sera de 12 000 personnes, enfin presque 12 100. Je ne sais pas sur quel calcul ils se basent, mais voilà, ça montre un peu l'étendue du concept.
Et puis...
Donc voilà, ça se présente vraiment comme un système de financement participatif, sans le côté financement, hein, pour le coup, parce que vous ne mettez pas du tout d'argent.
En fait, c'est une façon de soutenir un projet, mais pas avec ses fonds, mais avec sa puissance de communication, on va dire.
Voilà, c'est exactement ça. Parce qu'on a tendance à... Enfin, moi, le premier, hein, aimer beaucoup de choses, de projets, etc., à les suivre, à aimer à de temps en temps dire, pour faire plaisir, de faire un retweet, mais voilà, c'est tellement épisodique, et puis on pense pas toujours à le faire, on se dit, bah voilà, ils ont d'autres personnes chez qui ils publient, donc ils ont une stratégie de communication, ils ont quelque chose, alors qu'en fait, c'est pas si évident que ça. Moi, pour avoir un peu travaillé dans la com, enfin dans tout ce qui est réseaux sociaux, etc., c'est pas si facile. Et donc là, la possibilité de demander à ces personnes qui soutiennent de publier un message X de son choix en plus, donc avec un contenu qui est là vraiment dans le but d'attirer, etc., de vraiment séduire à un moment clé, ça a vraiment une portée inimaginable, surtout à l'ère actuelle, à l'ère du web, j'allais dire du web 2.0, mais je trouve que ça a de moins en moins de sens, le 2.0. Mais ça a une portée assez énorme. Et il n'y avait pas encore de plateforme de ce type-là en France. Parce qu'aux États-Unis, c'est quand même assez... Il y a des grands noms qui ont fait appel à ça. J'ai par exemple vu sur Thunderclap, il y a une campagne qui est actuellement en cours pour la prochaine saison de Game of Thrones. C'est dire un peu le niveau.
Ouais, c'est marrant.
Voilà. Et alors, petite... Ça m'a fait un peu rire parce qu'au départ, avant de lire un peu plus sur le concept, on a tendance à penser que c'est le serpent qui se mord la queue. Mais WeBuzzIt, donc la plateforme en question, a lancé une campagne de financement participatif. ils font pas encore de crowdfunding, hein, ils font que du crowdfunding pour le moment. Et donc, c'est en fait deux personnes, hein, qui sont à l'origine de ce projet-là. Ils bossent juste à deux pour le moment. Il y a un... Ah bah tiens, il s'appelle Morgan, justement, tiens.
Oui, j'ai vu.
Voilà, qui est le marketeur de la bande. Et il y a Frédéric qui est le développeur, et qui a développé la plateforme lui tout seul pour le moment. Donc bien évidemment, pour un projet, une idée de cette ampleur, ils ont besoin un peu de bras et de personnes. À deux, tu sais pas non plus tout faire. Et donc, ils ont lancé un financement participatif dans le but de pouvoir assurer une certaine stabilité de la plateforme, de la développer, et d'engager éventuellement une personne en plus pour aider à son développement et à corriger un peu tous les petits bugs. Ils essayent d'atteindre 4000 euros. Il reste encore 29 jours et ils en sont pour le moment à 810 euros. À voir, je me dis pourquoi pas. Il reste encore pas mal de temps, donc peut-être qu'en parlant autour de vous, ça peut le faire. Ils devraient peut-être lancer eux-mêmes une campagne de cross-speaking. Permettrait peut-être de lever un peu plus de fonds.
C'est la réflexion que je me faisais. On va avoir des campagnes de crowd speaking pour pouvoir réussir ces campagnes de crowdfunding plus tard.
C'est ça, voilà. Et une fois que le crowdfunding aura réussi, on fera du crowd speaking pour parler du projet crowdfundé.
C'est ça.
En gros, c'est vrai que ça tourne un peu... Mais
soit ça tourne en rond, soit c'est une illusion, faut voir.
Par contre, ça montre que le web est quand même une plateforme assez, assez phénoménale et avec une vraie force dans la communauté et dans l'aspect communication. C'est quand même... même si ça peut tourner au ridicule en tournant en boucle comme ça, ça faut quand même l'entraîner, mais ça montre quand même qu'il y a une certaine force. Donc voilà, qui sait, un jour, hein, peut-être pour les projets du web, hein, peut-être on essaiera de voir ce que la communauté peut nous apporter.
Hein. Ouais, non, c'est sûr.
Ça peut peut-être. On tentera le coup, je pense que d'ici quelques. Je suivrai le projet un peu de près. S'ils réussissent leur campagne de crowdfunding et si ça marche, je me fendrai d'un petit test, à mon avis.
Bah, il faut essayer, on est là pour ça.
Merci encore une fois à nos amis de chez Close to Shop. Décidément, on va penser que je leur fais de la pub à chaque émission, hein, mais. Je parle de chaque fois, mais pour le coup, c'est grâce à eux que j'ai découvert ce projet-là, donc merci à eux. Ben voilà, ouais, je crois que j'ai fait le tour de ma mise en évidence. Je ne sais pas si tu as...
Non, mais je ne connaissais pas du tout, en fait, le crowd speaking. Vraiment pas du tout.
Ben, moi
Et
non plus,
donc.
j'en avais déjà entendu parler par Thunderclap, mais je n'avais jamais approfondi en mettant le nom dessus, en fait. J'avais jamais vraiment nommé la chose.
Donc du coup non mais je trouve l'idée vraiment bien parce que c'est vrai que dans un projet qui se monte le côté communication peut être très difficile à développer et ça peut être une bonne solution si le projet est intéressant effectivement pourquoi pas donner un petit boost de communication.
Mais pour preuve, heureux hasard, hein, j'ai pas fait. En surfant sur Thunderclap, je suis tombé par hasard sur de leur projet, un projet qui a communiqué par là, qui est le Photoblox. Je sais pas si tu vois de quoi il s'agit, ça a fait un peu
Oui, je vois très bien.
le buzz à un moment sur les campagnes de financement participatif. Ben, visiblement, c'est simplement un peu venu de là, puisqu'ils ont réussi à
D'accord.
avoir près de 980 000 supporters via cette plateforme-là qui ont
Oui, ça doit
tweeté
être
ou
pas mal.
Facebooké leur message.
Doit être pas mal, effectivement. Ça doit avoir un bon impact, ça.
Ben, la preuve, c'est justement, tout le monde en a entendu parler. Hein. Nous deux
Effectivement.
en premier, on est des exemples types, on a entendu parler, donc c'est la preuve que ça marche. Donc voilà,
Espérons qu'ils
oui.
réussissent en France, du coup.
Espérons, oui. Donc, WeBuzzIt, donc WeBuzz, WeBuzz, .it. Voilà, les volous. Ben, écoute, ça va plaire à Mathieu parce qu'on rentre pile poil dans l'heure et demie, on est bien dans les timings, il aime bien ça,
On
donc on le salue.
va pas se faire disputer.
Non, voilà. Alors, pour conclure l'émission, juste un petit mot d'explication, puisque on ne le fait pas dans l'intro parce qu'on préfère être court sur les intros. Par contre, la conclusion, on peut faire un petit coucou à nos auditeurs et expliquer un petit peu le background des projets du web. Juste donc, je disais un petit mot d'explication pour deux petites choses. Donc, tout d'abord, ben, Mathieu n'a pas su être présent à cette émission-ci pour cause de déménagement, tout simplement. Mais aux dernières nouvelles, si tout se passe bien, il sera de retour la prochaine fois. Maintenant, tu l'as honorablement remplacé, hein, donc il n'y a pas de raison non plus. Je me demande d'ailleurs si je vais pas faire un schiste, et si je vais pas virer Mathieu.
Ah, ce serait méchant quand
Non, non, je
même.
plaisante. Bien sûr que non. Mais tu reviendras, rassure-moi.
Ah, mais avec plaisir. Avec grand
Et
plaisir.
donc ça, c'était la première chose. Et alors, on n'a pas su. Donc, Morgane et moi devions nous retrouver la semaine dernière pour enregistrer. Il devait y avoir l'émission une semaine plus tôt. Malheureusement, pour des raisons personnelles, je n'ai pas pu non plus être présent. Et donc, vu que c'était ta première, on n'allait quand même pas te laisser la barque tout seul. C'était un peu gros. Donc voilà, on a reporté. Mais ici, l'émission reprend un rythme normal. Donc, normalement, bah, dans 2 semaines, cette fois-ci, à partir de cette date où vous écouterez cette émission, nous enregistrerons un nouvel épisode. Bon, voilà. Sinon, pour ta première expérience, ça s'est bien
Bah, ça
passé?
s'est plutôt bien passé. J'ai eu un peu de mal au départ, mais bon, ça s'est amélioré au fur et à mesure.
Je te rassure, ça ne s'est pas entendu. On n'a pas entendu de trac ou autre. Ça s'est très bien déroulé. Donc d'ailleurs,
Bah, tant mieux.
j'encourage nos auditeurs à venir laisser un commentaire, à dire ce que vous avez pensé, si vous avez aimé, si à... Voilà, à nous dire ce que vous pensez de l'émission en général. N'hésitez pas, que ce soit positif ou négatif. Hein, on est là aussi pour accepter les critiques. Tant qu'elles sont constructives, nous, on est demandeurs, justement. Hein, on a envie d'avoir vos retours. Et donc, ben, comme à chaque fois, hein, on va faire le traditionnel petit tour de table d'où on peut nous retrouver. Et vu que tu es nouveau, je te laisse la primeur. Où peut-on te retrouver si on a envie de te faire un petit coucou sur Internet?
Alors sur Internet, je suis pas à beaucoup d'endroits, je suis principalement sur Twitter avec mon petit compte au nom rigolo qui s'appelle Orgams underscore. Donc Orgams, c'est... Ah mince, attendez. Orgams underscore, puisque Orgams c'est déjà pris, si je me souviens bien. Donc voilà pour mon petit pseudo sur Twitter.
C'est un rapport
Et
avec
toi-même?
orgasme?
C'est un jeu de mots, c'est un vieux pseudo que j'ai gardé et que j'affectionne encore,
Donc
même si j'ai pensé plusieurs fois à changer.
il y a bien un rapport avec l'orgasme, d'accord.
Ouais, c'était pour que ce soit rigolo à prononcer, etc.
Et ben moi donc c'est très simple, hein, c'est Note Kirby sur Twitter, hein, Notkirby, essentiellement. Je suis généralement sur les autres réseaux sociaux aussi, mais voilà, c'est pour dire de quoi, ça n'en vaut pas vraiment la peine. C'est essentiellement Twitter si vous voulez me suivre. Et concernant l'émission, Vous la retrouvez sur lesprojetsduweb.net. Nous sommes hébergés par PodCloud, hein, donc vous nous retrouvez sur l'annuaire de PodCloud. Coucou à eux et merci pour leur service. Et vous nous retrouvez sur les principaux réseaux sociaux également en cherchant les projets du web. Donc c'est @lesprojetsduweb sur Twitter, facebook.com/lesprojetsduweb, enfin les habituels. Ben voilà, je crois que j'ai fait le taf de pub, hein. On va dire ça comme ça.
C'est très très bien.
Généralement, c'est Mathieu qui s'en occupe, donc c'est vrai que je suis moins attaqué, mais voilà. L'essentiel, c'est lesprojetsduweb.net. Vous avez tous les liens, toutes les heures de diffusion. On est diffusé sur Pod Radio aussi, hein. Vous retrouvez les horaires également à cet endroit-là. Parce que oui, il n'y a pas que Synops Live pour le coup, il y a Pod Radio également. Bon,
Oui.
même si c'est pas pareil, c'est pas du live. Ben voilà, ben écoute, on a bonne émission, plein de consistance, hein, donc on va pouvoir vous laisser ici. On vous remercie de nous avoir écoutés. On espère que vous commenterez, que vous nous laisserez ne fût-ce qu'une petite note pour dire ce que vous en avez pensé. Et ben on vous dit à dans 2 semaines pour un prochain épisode. Ciao à tous!
À la prochaine fois. Ciao.
Les projets du web.